Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Surédin.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien. Heureux de vous retrouver ce lundi 16 septembre. Nous sommes ensemble pendant une heure pour débattre avec mes chroniqueurs de l'actualité sportive de la semaine avec des invités qui font le sport de haut niveau. Au programme aujourd'hui, comme d'habitude, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Lucas Sardic nous donnera l'agenda de la semaine et enfin nous recevrons pas un mais bien deux invités avec André Giraud, président de la Fédération Française d'Athlétisme, et Thomas Vaucler, manager de l'équipe de France de cyclisme. Avec nous ce soir autour de la table, Lucas Sardic. Bonsoir Lucas.
Bonsoir Jean.
Mehdi Guillonneau, bonsoir Mehdi.
Bonsoir Jean.
Et Timothée Rouvière, bonsoir Timothée.
Bonsoir Jean.
On était obligés. On était obligé de parler de la section.
Lucas était pas prévenu.
Ah, je sais. Ah, ça y est. On est tout père sauf peau.
Voilà, on était obligé. Coraline, notre réalisatrice, vous commencez à la connaître, qui est une fidèle supportrice. Lucas est mort de rire. Fidèle supportrice de la section paloise.
Oui.
Quel exploit.
Elle m'a tué tout mon effet de l'agenda. Parce que là,
on peut la remettre.
À fond dedans, là. Et
j'allais sortir les tututes et tout.
Vous savez quoi ? On va la remettre aussi pendant l'agenda. On peut clairement parler d'exploit. Alors, on va en parler tout à l'heure dans l'agenda.
C'est clairement
mais...
un exploit parce que ça faisait quand même 12 ans qu'on n'avait pas gagné là-bas. Donc c'est clairement un exploit, ouais.
Ouais. Le pot, j'ai pensé.
Il fallait au moins une Coupe du Monde et la moitié de l'effectif absent pour que.
Mais c'est exactement ce qu'elle m'a dit en antenne.
J'avais 6 ans quand on avait gagné la dernière fois. Clairement.
Donc aucun souvenir, quoi.
C'est comme si moi j'arrive dans une émission et je dis que Sochaux a battu Paris, ça n'arrivera strictement jamais, c'est impossible.
Si, c'est possible.
C'est dur,
la dernière fois. La dernière fois, vous aviez 2 ans, je crois.
Non, non, c'était en 2013 la dernière fois.
Oui, 2 ans, c'est ce qu'on disait.
Merci Colin, Slade quand même. Hein.
Ah oui.
Oui.
20 points, énorme.
27,
ah ouais, carrément.
Et je vais trahir un peu le hors antenne, mais je reçois un snap de Coraline samedi soir. Et elle me dit, c'est pas possible, on gagne à la mi-temps, ça va pas durer et tout. Elle était déjà en stress absolu.
Ah
et,
oui,
alors,
oui.
Et alors là, j'ai reçu un ou deux snaps vers la fin de soirée. J'ai dit, c'est bon,
elle
la,
est
section, la section a gagné. Vous avez défilé sur la place du Capitole ou pas encore?
Ah oui, mais bien sûr, j'étais avec mon petit maillot et mon drapeau là.
Elle a pris un direct Toulouse-Clermont, direct. Voilà, place de Jatte, c'est parti.
Magnifique quoi, magnifique. Vous avez vu la performance, j'imagine. Vous avez fait quoi de votre week-end, Mehdi?
Repos et repos aussi.
Oui, c'est pas mal.
C'est parfait.
Ça fait du bien.
C'est parfait, ouais.
ça fait du bien, Timothée.
J'ai envie de répondre à la même chose. Repos après une semaine assez éreintante, ouais.
On a tous vu le but de Neymar, j'imagine. On va en
parler le match,
Neymar, tout à l'heure. Et vous, Lucas, on prépare les 3 mois de Léon ?
Oui, oui. Mais après, je me suis quand même bien occupé. J'ai une vie sociale bien remplie.
Vous êtes en vacances, là, c'est ça ?
Oui, je suis en vacances.
Vous allez lui faire un anniversaire pour les 3 mois ?
C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai sorti
les tongs.
C'est important pour la vidéo.
Ouais, comme ça, on peut voir des caméras que vous êtes venu en tongs avec un super t-shirt quand même. Celui-là, il est bien flash. J'aime beaucoup, mais c'est vrai, j'aime beaucoup.
T-shirt du vacances. On sent une pointe d'ironie là.
Je sais pas comment le dire.
Non, c'est vrai, j'aime beaucoup.
Ok, mais vous savez quoi, je vais vous le signer, je vais vous le filer.
Merci beaucoup. Bon, je vois que vous êtes en forme, surtout la section paloise. On peut démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule.
Les coups de cœur et les coups de gueule, chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué, une joie, une déception, vous avez l'habitude. On va partir avec vous, Mehdi Guillonneau. Alors, c'est que des coups de cœur, sauf vous, c'est un mi-coup de cœur, mi-coup de déception, entre guillemets. On va parler moto, on va parler du français qui a réalisé une belle performance quand même ce week-end.
Bah, je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou même à l'heure actuelle ou si c'est une déception.
Il y a une frustration.
Exactement, il y a une frustration parce que donc, Fabio Quartararo participait, bon, c'était le Grand Prix de Saint-Marin en moto GP. Il est passé tout près de la victoire, il est parti troisième, il est rapidement passé deuxième après le départ, puis premier en doublant Vignales, et il a mené pendant 20 tours. Sauf que derrière lui, il était toujours à une demi-seconde derrière, il y avait le quadruple ou quintuple champion du monde, je ne sais plus, Marc Marquez, qui l'a suivi tout le long. Et qu'il a attaqué dans le dernier tour quand il a un petit peu voulu. Moi, j'avais presque l'impression qu'il jouait avec, mais voilà, il l'a dépassé. Puis Quartararo a réussi à repasser devant pendant un ou deux virages. Ça a été très court. Et puis Marquez est passé une nouvelle fois devant dans le dernier tour et Quartararo a réessayé de l'attaquer aussi. C'était un dernier tour assez fou, mais il a failli perdre l'équilibre. Il n'est pas passé loin de sortir et il finit second au final. Donc ouais, il y a une déception de ne pas le voir gagner son premier Grand Prix, malgré que ça soit un rookie, parce que voilà, c'est sa première saison. Mais putain, il a mené 20 tours et devant Marquez, il a réussi à tenir Marquez.
C'est
et il y a quelques jours, on avait un débat sur la nouvelle star de la F1 avec Leclerc. Parce qu'on n'a pas la nouvelle star du MotoGP avec Fabio Quartararo.
C'est exactement ce que je disais.
Honnêtement, on a Marquez devant lui qui va risquer de rester dans les livres pour des années. Voilà, il vient de gagner son 77e Grand Prix, il est 3 ou 4e dans la hiérarchie. Il n'a que 26 ans. Donc. Il va encore en gagner quelques-uns.
Alors Charles Leclerc n'est pas français, mais c'est vrai qu'en tant que français par rapport au Monégasque, on a une attache particulière pour Charles Leclerc. Là, il y a Quartararo. C'est vrai que dans le sport automobile, là, les Français ou les francophones se portent très bien pour l'instant.
Oui, non, mais c'est vrai que Fabio Quartararo, c'est sans doute la relève, celui qui va succéder à Régis Laconil, dernier vainqueur en MotoGP. Ça remonte à 1999. À l'époque, ça s'appelait encore 500 centimètres.
C'est ça. Un GP, on n'a jamais gagné parce que
on a gagné, ouais. Voilà. Mais beaucoup voient dans ce duel Marquez-Quartararo de ce Grand Prix de Saint-Marin, le futur duel des années à venir en MotoGP, et j'ai envie de les croire, enfin en tout cas j'ai envie d'être d'accord avec eux. C'est vrai que c'était une belle passe d'armes, c'est vrai que Marquez a attendu, il a attaqué, mais en même temps le petit français il a pas fait une seule faute pendant 20 tours, c'est-à-dire que s'il avait eu l'opportunité avant, Marquez il serait peut-être passé, mais Fabio Quartararo lui a pas non plus laissé la porte ouverte, et voilà, c'est son 4e podium pour sa saison rookie. Il est encore devant Vinales, qu'il a passé assez facilement, qui est le pilote officiel de sa team. C'est vraiment pas mal, c'est même très bien, et on espère juste que ça va continuer.
Il en a 4 podiums cette année.
4 podiums, oui.
Timothée Rouvière.
Oui, il était vraiment pas loin, parce qu'on a toujours senti qu'il pouvait gagner, mais au dernier moment ça s'est pas fait. Mais alors moi je pense que c'est un coup de cœur sur la durée, parce qu'avoir un Français qui performe comme ça au plus haut niveau, surtout avec une moto moins performante, on prend. Mais après c'est vrai qu'on attend autre chose au vu de tout ce qu'il montre. Mais ça passera dans pas longtemps.
Il me fait crier devant la télé. Moi, il me fait crier devant la télé devant les GP, et ça fait très longtemps que c'était pas arrivé. Même Zarco, quand il était bon, ça me faisait pas la même chose.
Moi, la dernière fois que j'ai crié devant la télé, c'était mercredi dernier pour l'équipe de France de basket. C'est notre coup de cœur, Timothée Rouvière, qui a battu les États-Unis d'Amérique pour au basket. C'est
le Graal, c'est le Graal. 12 ans, je crois qu'il n'avait pas gagné.
Votre coup de cœur, c'est la médaille de bronze hier. Pareil, comme pour Quartararo, il y a une grosse amertume là quand même.
C'est vrai qu'il y a
on bat les États-Unis, parce que avant de vous lancer, c'est vrai qu'avant le mondial, si on disait médaille de bronze, on aurait signé. Mais en battant les États-Unis, on peut avoir des regrets ou pas, justement.
C'est vrai qu'après la victoire des États-Unis, où il y a quand même 10 points d'écart, c'est quand même la première fois, ils n'avaient pas perdu depuis 2006 contre la Grèce en demi-finale. C'est vrai qu'on s'attendait à autre chose. On voyait ces Français champions du monde, on voyait des leaders qui assuraient, les jeunes avec la relève, je pense à Franck Ntilikina, mais c'est vrai qu'il y a eu un non-match contre l'Argentine. J'ai eu peur que ça soit aussi un non-match pour le match pour la 3ème place.
À la mi-temps c'était parti pareil, hein.
À la mi-temps il y a quand même 15 points d'avance,
même à la fin du 3ème,
même à la fin du 3ème il y a 15 points d'avance quand même pour les Australiens, et après ils se sont révélés, donc ils conservent leur médaille de bronze acquise il y a 4 ans.
C'est la deuxième médaille de l'histoire des mondiaux.
Voilà, donc on prend, sachant qu'on sait qu'il y a eu la retraite de Tipeee il y a pas longtemps, et ça a laissé un gros vide. Et là c'est vrai qu'il y a un excellent mélange entre les jeunes, entre Rudy Gobert, moi je pense à Evan Fournier, Nicolas Batum qui a réveillé cette équipe de France, Nando De Colo. Donc c'est un coup de cœur, oui, parce qu'il y a quand même une médaille de bronze. Un petit peu de déception parce qu'il y avait mieux à faire, moi je pense, en demi-finale. Mais après c'est surtout un pari sur l'avenir, avec des jeunes qui sont jeunes et qui vont performer dans les années à venir, dès Tokyo en 2020, l'année prochaine.
On les suivra, hein, pour les Jeux Olympiques. Ils sont qualifiés bien évidemment pour les Jeux Olympiques. On va le dire aussi à nos auditeurs, c'est vrai que hors antenne la semaine dernière, on l'avait un peu dit, on avait dit mais ils vont battre les États-Unis et comme d'habitude ils vont perdre en demi-finale. On l'a dit hors antenne, c'est bien français ça ou pas, de faire l'exploit, ou alors c'est normal, on va dire il y a une telle émotion de battre les États-Unis. Comment on situe la performance de la France, qui on le rappelle médaille dans les mondiaux, c'est quand même assez rare.
Ça aurait été un exploit si en fait il n'y avait pas eu cette défaite derrière des Américains face aux Serbes, qui met en perspective un petit peu l'exploit entre guillemets français, parce que on se retrouve finalement avec des Américains qui ont perdu 3 fois cet été face aux Australiens, face aux Français et face aux
aux Serbes. Donc voilà, trois équipes qui sont devant eux
dans les championnats
du monde, troisième, quatrième et cinquième. Ils n'ont pas joué les Argentins et les Espagnols, mais ça se trouve ils auraient perdu aussi contre eux. Est-ce que finalement les États-Unis sont pas à leur place et les Français à leur place à ce mondial? Les Argentins étaient très bons, ils ont mérité leur victoire. Ils avaient battu les Serbes juste avant, les Serbes qui ont battu les Américains. Enfin voilà, on est face à un exploit français, certes, parce qu'on les avait pas jamais battus de notre histoire en compétition officielle, mais est-ce que c'était pas l'équipe la plus faible des États-Unis de tous les temps aussi? On n'en sait rien.
En 10 secondes, ça reste quand même un très bon souvenir de battre les États-Unis, une médaille de bronze. Oui. Des regrets, on peut parler de regrets presque éternels quand même pour l'équipe de France, parce que on l'a dit, l'Espagne qui, faut saluer, a été sacrée championne du monde hier pour la deuxième fois de leur histoire en basket après 2006. Il y a l'Espagne, il y a les États-Unis, il y a la Serbie. Et là, c'était presque le moment ou jamais, voilà, quand
c'est
même. C'est là où il y a des regrets éternels.
Il y a des regrets éternels parce
d'habitude,
que
les équipes sont là et cet été, ils n'étaient pas vraiment là.
Parce
à part
que,
l'Espagne qui
comme
été
le disait Lucas, voilà, on est peut-être assisté à la plus faible équipe des États-Unis où ils manquaient. Ils sont arrivés avec une équipe D, E ou F. Et l'année prochaine, dès Tokyo et même le mondial, et ben, les meilleurs vont revenir et ce ne sera plus la même paire de manches. Donc peut-être que les Français peuvent rester deuxième, troisième, quatrième, mais remporter un titre mondial, ça paraît compliqué dans les années à venir.
Grosse déception de la Serbie. C'est peut-être la Serbie, les outsiders numéro 1 normalement, et eux aussi se sont plantés et ont perdu contre l'Argentine.
On va les suivre pour les Jeux Olympiques 2020, les Jeux Olympiques 2016 qui avaient réussi à Neymar qui est champion olympique 2016, et c'est votre coup de cœur, on peut dire ça comme ça, sur le retour de Neymar au Parc des Princes sous le maillot du Paris Saint-Germain, auteur d'un but, et il donne la victoire au Paris Saint-Germain dans un contexte difficile.
Ouais, en fait, c'est pas tant de voir Neymar faire gagner le Paris Saint-Germain qui me fait plaisir, c'est de voir que ça s'est fait finalement. Enfin, je sais pas comment dire, mais je trouve que c'est bien qu'il ait joué si rapidement, qu'il ait montré aussi qu'il avait des jambes, qu'il avait envie, qu'il s'est pas démobilisé. C'était le mot que je cherchais pendant tous ces mois, toutes ces semaines où on a pensé qu'il allait partir. Il était là, il était bien là, il a joué, il a marqué un but magnifique. En fait, le voir sur ce terrain me fait dire que je suis content pour notre championnat, je suis content pour le Paris Saint-Germain aussi, parce que ça lui permettra peut-être de briller en Ligue des Champions encore un peu plus.
On rappelle la Ligue des Champions qui démarre dès demain, Lyon contre le Zénith à 19h, Lille qui se déplace à l'Ajax d'Amsterdam, le demi-finaliste l'année dernière, et PSG.
Vous voulez tout faire, mon agenda, c'est ça?
C'est ça.
Mais il n'y a pas de problème.
Mais c'est pour teaser votre agenda.
Ah, c'est pour teaser.
C'est pour teaser l'agenda, l'agenda vers 19h30. Voilà, ça c'est teaser.
Les gens sont impatients. Non, mais voilà, pour revenir sur Neymar, Je suis content aussi que Thomas Tuchel l'ait relancé comme ça. Et il y a même eu un petit geste sympathique à la fin où il a un petit peu applaudi les supporters, ceux en tout cas qui avaient salué son but. S'il refait un ou deux coups comme ça, il va reconquérir le Parc des Princes en plus, je pense, assez rapidement. En tout cas, je pense que les supporters demandent que ça finalement, qu'ils soient gourés et que Neymar leur montre que il est là et qu'il veut les faire gagner.
Et parlons sur le sportif, bien évidemment. Le but est quand même assez extraordinaire. C'est
incroyable.
Il n'y a que Neymar qui peut le marquer, celui de l'Ouest.
C'est magnifique.
Ronaldo,
on partait sur un 0-0. Moi, j'étais devant le match. Et
ça m'a sauvé mon côté match.
C'est quand même un coup du génie. Et c'est vrai qu'on pouvait douter de l'intégration et même de la motivation de Neymar à continuer. Et c'est vrai que le fait de voir marquer là et une grosse équipe du Paris Saint-Germain. Donc, on verra dès mercredi en Ligue des Champions contre le Real.
Mehdi, pour conclure.
Je m'en fous complètement de Neymar. Moi, ça m'a gazé complet. À part vous dire que les maillots du PSG sont très beaux. Et c'est
les maillots sœurs.
Mais Neymar, moi, je n'en peux plus, il a qu'à marquer ses buts, c'est un joueur extraordinaire, mais je n'en peux plus, moi, de ces mecs là qui font des histoires tout le temps avec leur entourage, qui se séparent de tout son entourage. Là, moi, il m'a gavé, pourtant c'est un joueur extraordinaire.
Bon,
j'en peux plus.
Un autographe quand il viendra au stadium.
Ouais, exactement.
Exactement. Ouais. On se retrouve dans moins de 4 minutes avec André Giraud, le président de la Fédération française d'athlétisme. À tout de suite. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days.
smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days. When the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days. When the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at their face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at our face, singing, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days. When the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah.
Sportez-vous bien. L'invité.
Notre invité est le président de la Fédération française d'athlétisme depuis décembre 2016. À l'aube des championnats du monde de Doha le vendredi 27 septembre, André Giraud nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir dans l'émission Sportez-vous bien. André, bonsoir.
Bonsoir.
Donc comme je l'ai dit, vous êtes président de la Fédération française d'athlétisme. L'athlétisme, vous l'avez pratiqué étant plus jeune, c'est tombé comme ça par, entre guillemets, le plus grand des hasards?
Non, je l'ai pratiqué en étant très jeune. J'ai commencé l'athlétisme, j'avais 14 ans, après avoir pratiqué un petit peu de football, comme tous les Marseillais d'ailleurs. Et puis voilà, donc j'ai fait du demi-fond, j'ai été un coureur d'un bon niveau régional. Et puis après, bon, lorsque j'ai dû un petit peu arrêter à cause de mes études, j'ai continué à pratiquer et je me suis orienté plutôt au service des autres. J'ai encadré des jeunes et puis petit à petit, je suis devenu dirigeant de club, dirigeant de comité, de ligue et maintenant président de la fédération.
Et justement, comment on accède à la Fédération française d'athlétisme, pardon. C'est étape par étape, comme vous l'avez dit, on commence en bas de l'échelle, on termine en haut, parce que vous êtes tout en haut, vous, de l'échelle de l'athlétisme.
Mais d'abord, vous dire que dans mon parcours, je n'ai rien calculé. Les étapes, je les ai franchies comme ça, disons. Il s'est présenté un certain nombre d'occasions qui ont fait que j'ai été amené à prendre des responsabilités, que je les ai exercées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à tous les niveaux. Et puis, il y a des moments où quand vous êtes dirigeant, bénévole, on vous sollicite. Je suis un passionné, donc c'est vrai que je me suis toujours investi à fond dans ce que j'ai entrepris. Et puis en 2000, j'ai intégré le comité directeur de la fédération, ça a été la première étape. Ensuite, j'ai été vice-président sous l'ère de Bernard Amsalem. Et puis, quand Bernard s'est arrêté, il fallait un candidat, plusieurs de mes collègues m'ont demandé d'y aller, c'était poussé par les autres et je vous dis, rien n'était calculé au départ.
Vous allez vivre votre deuxième, en tant que président de la Fédération française d'athlétisme, votre deuxième mondial, votre deuxième championnat du monde d'athlétisme. Après 2017, donc il y a 2019, l'objectif sportif, c'est faire mieux justement que 2017. On le rappelle.
Vous savez, c'est un championnat du monde un peu particulier que nous allons vivre.
Oui.
D'abord, pour la période, pour le calendrier, ça va se dérouler fin septembre, début octobre. Je crois que ça ne s'est jamais produit. Donc, c'est très tard dans l'année. Ensuite, géographiquement, Nous serons dans un pays où il va faire très chaud, donc avec des températures qui vont avoisiner l'après-midi 40 degrés. Voilà, donc c'est un championnat qu'on aborde dans des conditions un peu particulières et en plus, un championnat qui se situe dans une période pré-olympique. Et par expérience, les périodes pré-olympiques sont toujours des périodes délicates pour les athlètes qui ont déjà les yeux tournés vers Tokyo. Donc, on attend, bien entendu, des résultats intéressants. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif numéro un, disons, de la fédération. On veut être présent, on veut tenir notre place. Ce qui va être intéressant, c'est de mesurer un petit peu à quelques mois des Jeux, à moins d'un an des Jeux, un petit peu les forces en présence. Et puis surtout voir comment va se comporter la nouvelle génération.
Une question de Timothée Rouvière, un de nos chroniqueurs.
Bonsoir André.
Bonsoir.
Par rapport à tout ce que vous avez cité, donc le fait que le championnat du monde ait lieu à Doha, donc il fasse 40 degrés et que ça arrive relativement tard dans l'année, est-ce que les athlètes doivent se préparer autrement? Est-ce que le pic de forme est atteint vers le mois de septembre? Comment ça se passe?
Oui, alors depuis, bien entendu, depuis que nous connaissons cette date, les techniciens, les entraîneurs, les athlètes ont pris leur disposition pour être prêts justement à cette période. Mais c'est vrai que la saison aura été très longue. Nous avons quand même eu des championnats de France fin juillet. Donc ça sera c'est pour la première fois qu'on aura des championnats du monde 2 mois après les championnats de France. Habituellement, il s'écoule entre 3 semaines et 1 mois. Donc on a demandé à nos athlètes d'être présents aux championnats de France. Ensuite, donc, ils seront repartis en préparation. Il y a eu des meetings de fin de saison, comme le meeting de Paris, le meeting de Zurich, le meeting de Bruxelles. On a pu mesurer à l'occasion de ces meetings eh bien, que les athlètes étaient en progression, mais tout a été programmé justement pour que le pic de forme soit à ce moment-là. Maintenant, c'est une compétition dans des conditions particulières, donc on part un peu dans l'inconnu.
Une question d'un autre chroniqueur, Mehdi Guillaume.
Bonsoir. Une question, ça va être très court, très simple. Donc il n'y a pas d'objectif de médaille claire ou on se les fixe pour l'année prochaine?
Oui, alors moi, vous savez, je regarde les statistiques. Et alors, je vais rester sur le 21e siècle, mais on peut remonter au-delà. On se rend compte que les années pré-olympiques n'ont jamais été des années fastes pour l'athlétisme, à l'exception de 2003, où on avait eu les championnats du monde à Paris, où on avait récolté 8 médailles, on était chez nous, on les avait préparées. En 2007, à Osaka, on a fait 2 médailles de bronze. À Daegu, en 2011, 3 médailles de bronze. À Pékin, en 2015, la dernière fois, 2 médailles de bronze. Vous voyez, donc, ça a toujours été des championnats où on a pas trop bien réussi en termes comptables. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que les années qui ont suivi ont été plutôt des années fastes. Si on regarde, par exemple, eh bien, la dernière en date, Rio, on fait donc 2 médailles à Pékin et on en fait 6 à Rio. Vous voyez, donc, à l'espace d'un an, donc, on voit que les athlètes sont vraiment, ont pour objectif les JO et que leur préparation, même s'ils vont aller à Daegu, ils vont aller donc avec l'idée de faire le mieux possible, c'est pas leur préoccupation première. Aujourd'hui, j'étais avec eux à Boulouris, où ils sont en stage terminal, et j'ai pu remarquer là aussi, lorsqu'on discute avec eux, que l'objectif c'est vraiment Tokyo.
Tokyo 2020, ce sera au mois de fin juillet, début août. Hein,
c'est déjà demain.
Voilà, c'est tout bientôt. C'est les derniers préparatifs pour les mondiaux. Justement, pour les mondiaux, on vient de parler de la préparation des sportifs. Comment se prépare un président de fédération à l'aube des championnats du monde?
Bien, vous savez, là aussi, on se prépare. On a vécu malheureusement un printemps un peu délicat avec des affaires de dopage, avec des petits problèmes. Donc,
ça a posé problème au sein de la fédération.
Voilà, donc qui nous ont un peu, disons, c'est vrai, perturbés. Mais bon, nous, en termes de dirigeants, on n'est pas dans la préparation sportive, on est plutôt dans la préparation des équipes, la préparation psychologique, faire en sorte que chacun soit placé dans le meilleur environnement possible. Je vous disais tout à l'heure qu'on a fait en sorte que nos athlètes se préparent dans de bonnes conditions. À Boulouris, nous avions les sprinteurs, les hurdleurs, aujourd'hui les sauteurs et même quelques lanceurs, puisque Ménier Robert Michon était à Boulouris. Nous avons les lanceurs de marteau qui se sont préparés en Bretagne, donc avec deux deux chances intéressantes avec Tavernier et Bigot. Nous avons donc des épreuves combinées avec Maillère qui se prépare à Montpellier, le demi-fond qui s'est préparé à Font-Romeu. Nous avons créé, nous créons les conditions pour que les athlètes puissent arriver dans les meilleures conditions possibles au championnat. Quant à notre préparation à nous, c'est une préparation plutôt psychologique, donc essayer de voir que toute la logistique va suivre, que le staff médical va être au rendez-vous, que les dirigeants et surtout les entraîneurs pourront, disons, être véhiculés dans de bonnes conditions.
Toute la préparation.
En début, c'est un championnat spécial. C'est la première fois, à part les athlètes, si vous voulez, où les dirigeants sont éclatés dans plusieurs hôtels. Moi, par exemple, je vais être le seul Français dans mon hôtel. Vous voyez, c'est la première fois que ça se produit. Donc, alors, c'est vrai qu'on appréhende un peu cette période parce qu'on sait. C'est la première fois qu'on va être dans le golfe Persique pour préparer un championnat d'importance. Et les conditions, on espère qu'elles seront les meilleures possibles pour tous. Mais c'est particulier.
Lucas Serdic, le troisième chroniqueur.
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous le savez, on est une radio toulousaine et on a un athlète toulousain qu'on suit particulièrement. Nous, c'est Djilali Bedrani qui s'est qualifié pour ses premiers championnats du monde. Comment vous le percevez, cet athlète ? Est-ce qu'il est, comme vous le dites, focus sur les JO ou est-ce qu'il a envie déjà de performer comme il faut sur ces championnats du monde ?
Alors moi, je le suis depuis très longtemps et j'ai été, disons, très heureux pour lui de voir qu'il a réalisé de magnifiques chronos au mois de juillet, qui lui ont permis d'ailleurs d'accrocher sa qualification. Aujourd'hui, donc, il fait partie des athlètes qui devraient accrocher une finale. Hein, donc, mais c'est une compétition, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et je pense que Djilali a envie de bien faire. Il a besoin de se rassurer. Alain, si vous voulez, il a comme exemple ce qui s'est passé avec Meyedine Mekissi il y a quelques années où Mekissi, c'était un jeune qu'on ne connaissait pas. Et au jeu de Pékin, donc, il défie les Kenyans alors qu'il n'avait pas les meilleurs chronos. Et je pense qu'on peut retrouver dans Djilali Bedrani un petit peu ce comportement, quelqu'un qui veut vraiment bien faire. Ses dernières sorties ont d'ailleurs été très intéressantes et c'est vrai que il va tout faire, bien entendu, pour réussir le mieux possible à Doha.
Il reste sur une finale au meeting de Bruxelles. Il y a les championnats du monde la semaine prochaine. Il y a Tokyo 2020, mais bien évidemment, pour nous Français, il y a Paris 2024. Comment se passe la préparation pour la Fédération française d'athlétisme ?
Nous avons lancé depuis que nous avons appris donc qu'on avait les Jeux en 2024. On a lancé un projet qui s'appelle Athlée 2024. Nous avons repéré une quarantaine d'athlètes, garçons et filles, c'est à parité égale, qui ont le potentiel pour réaliser quelque chose d'intéressant à Paris, pour obtenir des médailles. Donc, on les a repérés il y a plus d'un an maintenant. On a lancé un appel à projet. Ils ont répondu à cet appel. On souhaite que ce soit à la fois des athlètes qui réussissent leur carrière sportive, mais aussi leur intégration professionnelle. Et donc, nous avons aujourd'hui une quarantaine de jeunes, toutes disciplines confondues, dont certains, d'ailleurs, vont apparaître déjà à Doha. Mais la plupart d'entre eux, on les réserve surtout pour les championnats d'Europe 2020 qui auront lieu à Paris après Tokyo.
Oui.
Et ensuite, on va lancer donc la période de préparation pour 2024. Donc, on a un plan qui est un plan d'accompagnement financier avec un financement conséquent de la fédération. Et on espère, bien entendu, que tout ce qui se met en place actuellement au niveau de l'État aujourd'hui puisse suivre. À mon avis, il y a un peu de retard qui a été pris sur la gestion du haut niveau par rapport aux projets qui sont développés. Et on espère que dans les semaines qui vont venir, on y verra plus clair. Parce qu'on a vraiment besoin, pour accompagner ces athlètes, d'avoir une clarification sur l'accompagnement financier qui sera accordé aux fédérations.
Lucas Cerdic.
Le modèle, un petit peu, c'est pour parler de Jeux Olympiques assez récents et d'un pays qui nous ressemble, avec qui on a beaucoup de similitudes, c'est la Grande-Bretagne par rapport aux Jeux Olympiques de Londres et une génération d'athlètes qui a vraiment émergé à ce moment-là. Est-ce qu'on part sur les mêmes bases pour le projet en termes de timing? Voilà, vous parliez de calendrier, un petit peu de retard. Les Britanniques, ils s'y ont pris tôt pour réussir ce.
Écoutez, c'est vrai que c'est un modèle, et vous avez raison de le citer. Un modèle non seulement qui a porté ses fruits en 2012, mais on l'a vu ensuite
en 2016,
le cas
oui.
en 2016
ça
et
se perdure.
C'est toujours le cas maintenant. Disons que le modèle anglais est un modèle dont on voudrait s'inspirer. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il me semble qu'on a pris quand même un peu de retard. Vous savez, 4 ans, c'est court. Au niveau de l'athlétisme, nous, on a repéré les athlètes, on les a mis dans des conditions pour qu'ils puissent réussir ce rendez-vous. Maintenant, il faudrait que bien tous ceux pour les acteurs, disons, qui sont autour des Jeux Olympiques 2024, puissent prendre la mesure et faire en sorte que dans les prochaines semaines, on ait vraiment des décisions claires qui soient prises, et pas simplement au niveau de l'athlétisme, mais au niveau de toutes les fédérations, pour pouvoir préparer sereinement cette nouvelle génération. À l'athlétisme, je vous le dis vraiment, on a une génération extraordinaire qui est en train de sortir. Si l'on s'en réfère aux résultats internationaux, depuis 2 ans, dans les championnats cadets, dans les championnats juniors, nous sortons toujours avec entre 20 et 30 médailles. Donc vous voyez que le potentiel existe. Encore faut-il maintenant transformer l'essai. Les statistiques nous montrent qu'on perd souvent 80% de notre jeune génération en route, justement parce que on n'arrive pas à construire autour d'eux un projet qui leur permette d'assurer leur avenir. Donc aujourd'hui, il y a l'aspect sportif, mais il y a aussi l'aspect socio-professionnel, et c'est le projet Athlète 2024 que le ministère prend en exemple d'ailleurs, et qui fait l'objet d'ailleurs de beaucoup de discussions à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais on espère que ce projet exemplaire, qu'on nous demande d'ailleurs de dupliquer dans notre fédération, sera suivi. Et je vous dis que ce qu'on souhaite, c'est que dans les prochaines semaines, on ait des réponses claires sur l'accompagnement qui va être accordé à ces athlètes-là.
Pour Paris 2024. André Giraud, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sportez-vous bien.
Merci à vous. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion, après Doha, peut-être de faire un bilan au cours d'une de vos émissions.
Avec plaisir. Le rendez-vous est déjà pris. Objectif, les mondiaux pour débuter avec l'athlétisme. Le vendredi 27 septembre, début des championnats du monde à Doha, avant bien évidemment les Jeux Olympiques de Tokyo. André, merci.
Merci, bonne soirée.
Et nous, on se retrouve dans moins de 4 minutes avec l'agenda de la semaine. À tout de suite. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face. And I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
the different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at their face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at their face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
We used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. We used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah.
Sportez-vous bien? L'agenda sportif.
L'agenda de la semaine avec vous, Lucas Cerdic, et encore une fois, une actu bien chargée. Et on va parler du rugby, les mondiaux qui vont commencer.
La mais oui, non, mais c'est la fin d'été des mondiaux, là, avec toutes les disciplines qu'on a. Et là, c'est la Coupe du Monde, donc c'est quand même pas le mondial le moins intéressant qui va débuter vendredi à 12h45. Attention, hein, parce que ça se joue en Asie, au Japon. Donc pour nous, ce sera à chaque fois assez tôt dans la journée.
Gros
les rencontres. Pas gros match d'entrée vendredi pour l'ouverture, ce sera Japon face à la Russie. Mais dès le lendemain, il faudra se lever tôt, il faudra pas se coucher tard vendredi soir, parce qu'à 9h15, ce sera France-Argentine, et c'est déjà de l'aveu de tous, quasiment le match le plus important de la compétition pour les Français, puisque clairement on visera la deuxième place dans ce groupe, même si on pourrait être premier. Mais voilà, si on perd ce match d'entrée contre l'Argentine, ça va être très compliqué de se qualifier.
Non seulement il y aura France-Argentine, et juste après il y a un petit Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud. Donc c'est vrai que le samedi
matin est intéressant. Voilà, on va pas se le cacher, c'est intéressant.
Il y a aussi qui traîne par là.
Peut-être, mais j'ai pas tout l'agenda sous les yeux. J'essaye de me concentrer sur ce que j'ai préparé. Du coup, pas de top 14 et pas de Pro D2 ce week-end, mais on va quand même parler un petit peu des résultats, parce que ça va toujours pas très bien pour le Stade Toulousain, qui a perdu à La Rochelle 28-13 lors de la quatrième journée. Le Castres Olympique a perdu aussi à Bayonne 27-17. On passe sur Pau parce que voilà, c'est pas très intéressant, mais ils ont gagné à Clermont 37-28. Bravo à la section paloise qui est troisième, alors que le CO et le Stade Toulousain sont 11e et 12e respectivement. Pour parler aussi d'un peu de Pro D2, ça va mal aussi pour nos clubs locaux. Colomiers a perdu à domicile face à Soyeux-Angoulême, qui est vraiment le tube de cet été en Pro D2, qui est premier. Le score 26-22. Montauban a également perdu à domicile, pourtant face à une équipe en difficulté. C'était Nevers. Le score final 29-26. Les Montalbanais sont quand même 5e, alors que Carcassonne, par contre, a gagné contre l'USAP. Une belle victoire 24-22 à domicile. Et si les pros ne jouent pas ce week-end, la Fédéralune joue ce week-end, ce sera la troisième journée. Blagnac va recevoir Tarbes. On a deux affiches magnifiques dans cette poule 3, puisque Blagnac donc va accueillir Tarbes. C'est le troisième contre le premier. Blagnac a gagné à Lannemezan 26-16, tandis que Tarbes a infligé une raclée à Saint-Sulpice 32-0. Ce sera dimanche à 15h30. Mais la veille, samedi à 19h, on aura aussi un très beau derby, Albi contre Lavore. Voilà, le derby tarnais, comme on dit là-bas. Non, je ne sais pas ce qu'on dit là-bas, mais je bluffe. C'est le deuxième contre le quatrième. Donc voilà, les quatre premiers se jouent entre eux. Albi qui a gagné à Oloron 24-12 ce week-end, tandis que Lavore a gagné contre Pamiers 21-18.
On reste dans le rugby, mais le rugby à 13.
Oui, bonne nouvelle, le Théo s'est largement imposé face à York dans ce premier match des playoffs, 44-6 à domicile le week-end dernier. Donc ils vont avoir le droit de jouer à Toronto. C'est une demi-finale, hein, on le répète, parce que c'est un peu compliqué les playoffs. En gros, s'ils gagnent contre Toronto, ils seront qualifiés pour la finale, et s'ils perdent, ils vont jouer un match un petit peu de barrage
pour rejouer Toronto,
pour éventuellement pouvoir rejouer Toronto en finale derrière. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Ce sera dimanche à 18h30, donc le déplacement du Théo à Toronto dans cette deuxième division du rugby à 13, du plus grand championnat du monde de rugby à 13 en hémisphère nord.
Un mot de football, le TFC qui a
plusieurs
fait
mots même.
Une bonne performance, oui, quand même à Saint-Etienne hier.
Oui, une belle performance dans un match spectaculaire, et on s'en félicite, parce que les Saint-Etienne-Toulouse ces dernières saisons, c'était vraiment pas toujours sympa. Là, on a eu un beau 2-2, et donc le TFC qui va pouvoir essayer de conserver sa place dans le top 10, hein, ils sont 10e les Toulousains. Dans cette sixième journée, samedi samedi à 20h, déplacement à Nîmes dans un espèce de derby d'Occitanie. Voilà, on en a quelques-uns maintenant. Voilà pour le TFC. Et en Ligue 2, Rodez va bien. Rodez va même très très bien puisque le RAF s'est imposé face à Le Mans 4-1. D'ailleurs, on va écouter tout de suite le coach Laurent Perlat du RAF après ce match de ce week-end face à Le Mans.
Un match bizarre. Une super première mi-temps. Ils nous ont laissé le ballon, on l'a essayé d'exploiter comme il fallait. Je trouve qu'on a fait une très très bonne première mi-temps, une très très bonne première demi-heure. Techniquement, dans les déplacements, dans l'efficacité. On avait un peu imaginé ce scénario-là et il a été au-delà de nos attentes, mais ça, il faut féliciter nos joueurs. On a eu le mérite de continuer à attaquer, d'avoir des solutions. Physiquement, on était bien. Voilà, c'était une victoire logique sur l'ensemble du match. Il n'y a pas eu...
Et Rodez, grâce à cette belle victoire, est cinquième et du coup a les honneurs de l'affiche du lundi soir. Ce sera donc lundi prochain à 20h45, déplacement à Lorient, leader du championnat.
Grosse affiche du début de saison de Ligue 2.
Ah hein, oui, grosse affiche, Lorient-Rodez, ça va être très sympa à suivre puisque le RAF marche très fort. En football aussi, cette semaine va être marquée par le retour de la Coupe d'Europe et on l'attend tous impatiemment avec la Ligue des Champions dès demain soir. 18h55 pour les clubs français, Lyon va accueillir le Zénith Saint-Pétersbourg tandis qu'à 21h, Lille va se déplacer à l'Ajax. Mais surtout, les regards seront braqués sur le mercredi soir puisque gros choc, PSG-Real de Madrid à 21h, ça va être une très belle affiche à suivre, pardon, avec beaucoup d'absents côté Real, quelques-uns aussi côté Paris, notamment peut-être
les trois attaquants de devant,
Kylian Mbappé,
Cavani
et Neymar qui est suspendu. Le lendemain, la Ligue Europa va débuter aussi, jeudi à 18h55, Rennes va accueillir le Celtic de Christopher Julien, l'ancien Toulousain, et à 21h, Saint-Etienne va se déplacer à la Gantoise.
Un mot de volée, l'Euro de volé en France, à Montpellier, et l'équipe de France se porte très bien.
Très bien, 3 matchs, 3 victoires, 3-7-0, et ce soir, ça commence à se corser. 20h45, France-Bulgarie, mercredi surtout, 20h45, France-Italie, 2 matchs pour ne pas finir 3e dans cette poule, puisque la 3e place les mettrait peut-être face à la Russie au tour d'après, qui a gagné les 2 dernières Ligues mondiales, qui est vraiment une nation qu'on a envie d'éviter à ce niveau-là de la compétition.
Surtout tout de suite, oui.
Voilà, mais la France va bien pour l'instant dans cet Euro de volet.
Un mot de handball, le Phoenix qui joue mercredi mais qui a été fessé, passez-moi l'expression, la semaine dernière.
Les fesses ont tremblé, c'est ça que vous voulez dire?
C'est ça.
31... Non mais je suis désolé. 31-22 à Tremblay, voilà, pour le Phoenix. C'est mercredi à 20h30, ils vont accueillir Dunkerque pour tenter de se remettre de cette déculottée. Voilà pour le handball.
Et on va parler de basket. Il est mort de...
Je suis navré.
Un mot de basket, Lucas.
Oui, oui, parce que le mondial est terminé et du coup, le championnat de France de Jeep Elite reprend. Et les Palois, chers à notre réalisatrice, vont se déplacer à Chalon-Reims pour la première journée ce week-end. Un mot aussi très brièvement de hockey sur glace, parce que ça ferait plaisir à Maxime Brossard s'il était là. Oui. La première journée de
D2 salue,
qui va commencer ce week-end avec le TBHC qui va recevoir, alors voilà, je ne sais pas qui c'est, mais je vous le dis, Vaujany.
Voilà. Super
avec tout le respect que je dois à Vaujany, que je ne connais pas. Voilà, et pour conclure,
vous êtes
en
pleine forme.
Je suis en pleine forme. Pour faire la transition avec notre superbe invité de juste après, les cyclismes, le championnat du monde dimanche prochain qu'on a vraiment envie de suivre avec grande attention.
On va en parler des championnats du monde, on en parle tout de suite. Merci Lucas, on passe au deuxième invité de la semaine.
Sportez-vous bien. L'invité.
Notre invité a disputé 15 tours de Tour de France, pardon, cumulant 20 jours avec le maillot jaune, vainqueur de 4 étapes. Il a d'ailleurs terminé meilleur grimpeur du Tour de France en 2012. Aujourd'hui, manager de l'équipe de France de cyclisme, Thomas Vaucler nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, quelques jours avant le début des championnats du monde. Thomas, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Merci d'être avec nous dans l'émission Sportez-vous bien. Pour démarrer, on va faire plutôt simple. Je l'ai dit, vous êtes manager de l'équipe de France de cyclisme. Concrètement, ça consiste en quoi ?
C'est vrai que c'est pas un rôle à l'image de Didier Deschamps, qui est un métier à temps plein à l'année, où il y a des rassemblements très régulièrement dans l'année. Dans le sport cycliste, les coureurs courent en équipe de marque tout au long de l'année, et à 2 ou 3 reprises selon les années, à 3 reprises lors des années olympiques comme l'année prochaine, il y a une sélection d'équipe de France. Donc moi, on va dire que je suis manager, sélectionneur de cette équipe. Je m'occupe de choisir quels coureurs porteront le maillot de l'équipe de France lors de ces occasions, et ma mission consiste surtout à avoir un bon relationnel avec l'ensemble des coureurs tout au long de l'année et pas seulement au moment de l'épreuve.
Comme vous avez dit, vous êtes le Didier Deschamps donc de l'équipe de France de cyclisme. Un peu comme lui, il choisit les attaquants, les défenseurs, les milieux de terrain et les gardiens de but. Pareil, vous choisissez les grimpeurs, les sprinteurs. Voilà, c'est un peu dans le même genre.
Oui, alors c'est vraiment toute proportion gardée. Hein,
oui.
Vrai que le monde du foot et du cyclisme, que ce soit d'un point de vue économique, mais surtout d'un point de vue de configuration où les footballeurs français évoluent souvent sous le maillot de l'équipe nationale, au contraire du vélo, comme bien expliqué. Mais bien entendu que si je prends l'exemple des championnats du monde qui auront lieu là d'ici 15 jours pour la course en ligne, c'est pas parce que Thibaut Pinot était super fort autour de France et puis que Romain Bardet est un des meilleurs grimpeurs français qu'on va forcément les prendre. Il faut faire une équipe en fonction du terrain et en fonction de la complémentarité de chacun, bien entendu.
On choisit aussi quand on fait l'équipe de France de cyclisme le numéro 1 et on construit autour. Là, on imagine, est-ce qu'on peut dire que c'est Julien Alaphilippe? On peut le dire, je pense.
Ah oui, sinon ça serait d'intox pur et dur que je ferais. Il n'y a qu'à regarder la composition de l'équipe pour les connaisseurs. C'est vrai que, de toute façon, après ça dépend aussi du parcours, mais c'est vrai que cette année, le championnat du monde offre un parcours qui convient bien à Julien Alaphilippe. Peut-être pas le parcours qui lui conviendrait le mieux, mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est la meilleure chance française, et de loin. À partir de ce constat, il est logique de bâtir une équipe autour de lui puisqu'on a la chance d'avoir, je le répète, le numéro 1 mondial et on a vu encore autour de France comment il nous a enchanté. L'objectif, c'est d'essayer d'aller chercher le maillot de champion du monde avec Julien Alaphilippe et on a bâti une équipe autour de lui en ce sens. Maintenant, il y a plein de nations qui ont des super bons coureurs au départ et qui ont le même objectif que nous et il n'y aura qu'une nation récompensée.
Autour de lui, il y aura Julien Bernard, Tony Galopin, entre autres. Justement, on va parler tout de suite de Julien Alaphilippe. Vous l'avez dit, il y a le Tour de France où il a fait rêver beaucoup de Français, moi le premier pour être honnête.
Moi le deuxième alors.
Vous le deuxième alors.
Ah oui. Surtout que
vous étiez prêt, on le rappelle, vous étiez chez nos confrères de France Télévisions pour poursuivre le Tour de France avec eux. Comment il se sent déjà, est-ce qu'il a bien récupéré parce qu'il est à la fin du Tour de France, ça a été horrible pour lui, il était complètement lessivé. Comment il se sent déjà, Julien Alaphilippe?
Ah, déjà il faut si vous avez regardé ce week-end, alors comme vous l'avez très bien dit au niveau du Tour de France, ce qu'il a vécu d'un point de vue sportif, bien entendu tous les coureurs terminent fatigués, mais lorsqu'on a le maillot jaune comme lui, on doit aller encore plus loin que le bout de ses forces. Donc il a fini, comme vous l'avez dit, exténué et il avait vraiment également une overdose, on peut appeler ça comme ça, des sollicitations, à tel point qu'il était, il ne s'appartenait plus lui-même, il lui a fallu plusieurs semaines pour se régénérer, et il a eu le courage, le cran, de refaire encore un objectif de fin de saison avec ce championnat du monde, ce qui est admirable parce que sa saison avait déjà été tellement magnifique qu'il aurait très bien pu s'arrêter là et personne n'aurait voulu. Ce week-end, vendredi et dimanche, se sont déroulées deux épreuves World Tour, donc deux épreuves de première division mondiale, un peu du niveau du Tour de France, on peut dire ça comme ça, avec les mêmes équipes au départ. Eh bien, il a terminé, il était dans le final, à l'attaque dans ces deux courses, et il reste encore 15 jours jusqu'au championnat du monde, ce qui fait dire qu'il a énormément travaillé après avoir bien récupéré de ce Tour de France.
On va compter sur Julien Alaphilippe. Une question d'un chroniqueur, Lucas Serdic.
Oui, bonsoir Thomas. Je voulais revenir un petit peu avec vous sur votre sélection, et je suis sûr qu'on vous en a déjà parlé, votre sélection pour le contre-la-montre avec le timing était peut-être pas idéal pour vous, puisqu'en même temps que vous annonciez votre sélection, Rémi Cavagna brillait sur le Tour d'Espagne avec une troisième place sur un contre-la-montre et une magnifique victoire remportée à la pédale. Est-ce que c'est parce qu'il avait cette Vuelta dans les jambes justement que vous l'avez pas pris, ou est-ce que c'est une histoire de parcours encore là?
Non, très franchement, j'ai pas l'habitude de faire de langue de bois. Je suis quelqu'un qui, j'avais exposé lorsque le président de la Fédération française de cyclisme m'a nommé à ce poste, j'avais exposé que ma manière de fonctionner était énormément basée sur la confiance. Et j'avais pris le parti de plusieurs semaines avant la Vuelta de donner des garanties aux deux coureurs qui défendront les couleurs d'équipe de France au chrono individuel, hein, Benjamin Thomas et Pierre Latour, qui pour moi, objectivement, sur les deux dernières années, sur des chronos aussi longs, étaient les meilleures chances françaises. Maintenant, je dois être honnête, si j'avais pu savoir que Rémi Cavagna atteindrait un tel niveau lors de cette Vuelta, il est possible que je l'aurais mis. D'ailleurs, il est premier remplaçant. Je ne souhaite pas du tout qu'il rentre en jeu. Ça voudrait dire que je souhaite une blessure, hein, de titulaire. Mais non, voilà, ça fait partie de mes principes. C'est ma responsabilité. Je la prends. Mais il est clair que Rémi Cavagna aurait pu viser une médaille s'il était aligné sur le chrono. Mais encore une fois, j'ai des principes auxquels je ne dérogerai pas.
Il est jeune, ce sera pour la prochaine fois.
Il est jeune, il a encore du temps. Et puis surtout, il a son coéquipier en équipe et compatriote Julien Lafilippe qui vise le titre mondial. Et un Rémi Cavagna que j'ai sélectionné depuis plusieurs semaines, je ne vais pas trahir un secret. Je pensais le mettre au travail au début pour faire un petit peu le travail des débuts de course. Et vu ce qu'il a démontré, il sera un élément hyper important dans le dispositif autour de Julien.
Un autre absent, c'est Thibaut Pinot qui lui arrête la saison après le Tour de France où il a dû abandonner malheureusement. Vous avez été informé bien évidemment avant tout le monde de l'arrêt de la saison de Thibaut Pinot. Il en a parlé avec vous, vous lui avez conseillé vous d'arrêter ou c'était une décision prise personnelle, lui tout seul?
Non, c'est le genre de choses, vous savez, le genre de décision qui appartient au coureur et à son entourage et à son groupe sportif. Un manager d'équipe nationale n'a pas son mot à dire là-dedans. Si encore le parcours, pour les auditeurs, il faut expliquer que cette année, le parcours n'est pas l'an dernier, c'est vrai qu'on avait dû Alaphilippe, du Bardet et du Thibaut Pinot dans le final du championnat du monde. Oui. Cette année, le parcours ne convient pas du tout aux purs grimpeurs que sont Thibaut Pinot ou Romain Bardet. Donc la question ne se posait pas.
Même s'il avait été apte, il ne serait pas convoqué.
Non, au même titre que Warren Barguil, par exemple. Je n'étais pas du tout contre ces garçons, mais j'ai échangé 2-3 mois avec eux pendant le Tour de France, même si je sais que ce n'est pas le moment où on parle du mondial, le Tour de France. Mais ces garçons, ils ont l'expérience, ils savent analyser un parcours, le parcours du Yorkshire, là où auront lieu les championnats du monde. Que ça soit au niveau français ou au niveau des sélections étrangères, vous n'avez pas un seul pur grimpeur au départ, tout simplement parce que les parcours évoluent d'année en année. L'an prochain, par contre, je vous garantis que là, il y aura en Suisse, à Martigny, en 2020, il n'y aura pas la place, par exemple, pour un Florian Sénéchal, qui est un gros rouleur et qui est aux côtés de Julien Alaphilippe cette année, dans l'équipe de France.
L'année prochaine,
ce sera vraiment des purs grimpeurs, quoi. Il y aura 5000 mètres de dénivelé. En Suisse, ce sera là, je compte bien en tout cas sur les Français, on comptera bien sur les Thibaut Pinot, les Bardet, les Warren Barguil, les David Godu, les Guillaume Martin, voilà, tous les meilleurs grimpeurs français. Quoi.
Vous êtes dans le cyclisme depuis bien longtemps. La sélection là pour les mondiaux, on va le dire franchement, elle a une belle gueule. On voit tous les absents qu'il y a encore une fois. Est-ce qu'on peut parler de meilleure génération du cyclisme français?
Oui, en tout cas, si on compare à il y a quelques années, par exemple ma génération, n'ayons pas peur des...
Dont vous étiez une des principales têtes d'affiche.
Oui, on allait souvent sur les championnats du monde et l'objectif c'était de faire une belle course et puis pourquoi pas d'anticiper les grosses manœuvres des favoris. Par chance, aujourd'hui, on a des coureurs capables de jouer à la pédale avec les meilleurs. Donc c'est un
plaisir. Et surtout les profils en plus.
Et surtout les profils. Il y a peut-être dans le domaine du contre-la-montre encore qu'on pêche un petit peu, encore que sur la Vuelta, comme vous l'avez dit, on a eu des belles surprises, même s'il faut faire des différences entre les contre-la-montre lors des courses à étapes et les contre-la-montre des courses d'un jour. Mais oui, bien entendu, que ça soit puncher, pur sprinter ou pur grimpeur, la France peut gagner. Ça ne veut pas dire que ça sera le cas, mais elle peut, contrairement à certaines années, une petite dizaine d'années où c'est vrai, si on y allait, quand j'y allais, on savait très bien qu'on n'avait aucune chance de faire un podium, quoi. Donc c'est clair que c'est beaucoup plus motivant pour les coureurs et pour un manager d'emmener une équipe dans ces conditions.
Et je vais vous poser la fameuse question, je pense que la question on se la pose pour Roland Garros pour les Français et on se la pose également pour les Français pour le Tour de France. C'est pour bientôt, vous pensez, un Français vainqueur du Tour de France? Parce que
on a deux ans de marge déjà sur le tennis, hein, parce qu'il y a Yannick Noah qui est en 83,
oui, c'est vrai. C'est vrai.
Mais écoutez, honnêtement, moi j'y croyais dur comme fer cette année, hein, quand on a vu des
Thibaut. Oh, oui, c'est vrai que vous le disiez juste sur France 2 et France 3. Oui.
Le numéro qu'il a fait dans les Pyrénées, s'il n'avait pas eu cette blessure et si les étapes des Alpes n'avaient pas été tronquées du fait de la météo, très franchement, je pense qu'il était au-dessus du lot. Alors voilà, maintenant on a eu un très beau vainqueur avec Egan Bernal. Ce qui est sûr, c'est que les Français sont dans le match. Ils sont dans le match et je parle pas seulement de Thibaut Pinot, Julien Lafilippe, pourquoi pas, même s'il dit qu'il ne vise pas le général. Et Romain Bardet, n'oublions pas, c'est pas parce qu'il a été un peu en dedans cette année qu'il a perdu ses qualités. Et ça dépend aussi du tracé du Tour. Et on a une autre génération qui arrive aussi. Et surtout, on a vu cette année
qu'il pouvait y avoir, contrairement à ce qu'on a, ce à quoi on a assisté depuis, allez, on va dire une dizaine d'années à chaque fois sur le Tour de France, il peut y avoir une course de mouvement et il peut se passer des choses tous les jours et pas une équipe qui dirige du début à la fin le Tour de France. Et je crois que c'est ça qui doit donner de l'espoir, plus que le talent de l'un ou de l'autre.
Ce serait bien que ce soit Thibaut Pinot, lui, le supporter du FC Sochaux Montbéliard, bien évidemment. Ça nous fait un point commun comme ça avec Thibaut Pinot. On peut parler des Jeux Olympiques pour l'été prochain, Tokyo. On a reçu tout à l'heure André Giraud, le président de la Fédération française d'athlétisme, qui nous disait que les athlètes pouvaient avoir la tête aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, alors que les championnats du monde débutent la semaine prochaine. C'est pareil pour les coureurs ou pas du tout?
Non. Alors, c'est pas pareil pour les coureurs parce que dans l'athlétisme, je vais rien vous apprendre. Les JO, c'est ce qu'il y a de, qu'il y a de suprême. Dans le cyclisme, c'est encore assez récent. Je crois que c'est en 1996 que la course olympique en ligne a été ouverte aux coureurs professionnels. Donc, ça a mis un petit peu de temps à rentrer dans les mœurs. Et puis, ben, il y a le Tour de France qui précède. C'est-à-dire que c'est une semaine juste avant l'épreuve en ligne des Jeux Olympiques. Donc, il est vrai que les coureurs, je dis pas du tout que c'est une séance de rattrapage les Jeux Olympiques, mais ça n'a pas une valeur aussi sacrée que dans le domaine de l'athlétisme. En revanche, ce qui est certain, et j'en veux pour preuve pour avoir déjà discuté avec des coureurs qui sont potentiellement sélectionnables pour l'année prochaine, pour les JO, pour la course sur route au niveau des Jeux Olympiques de Tokyo, bien entendu qu'ils les ont dans un coin de la tête et ils font une planification de course en fonction pour ceux qui ont une chance d'y aller, ça c'est clair.
Merci beaucoup Thomas Vauclair.
Voilà, merci, bonne soirée à vous.
Merci d'avoir été avec nous dans Sportez-vous bien. Bon courage pour les championnats du monde. Nous, c'est déjà terminé. Messieurs, passez une bonne semaine sportive sur Sportez-vous bien. À lundi.
Les podcasts de Radio Présence.
Podcasts de Radio Présence.
Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.